7h30, c'est le journal de Paul Sertillange. Bonjour Paul.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. La stupeur a laissé place à la colère en Corse au lendemain de l'agression d'Ivan Colonna en prison. Le militant nationaliste est à l'hôpital entre la vie et la mort. Un autre détenu l'a étranglé. Nous sommes en Corse dès le début de ce journal. La guerre en Ukraine et les Russes qui progressent. Ils s'emparent d'une grande ville du sud du pays. À Kiev, des bombardements cette nuit encore dans la capitale où la résistance s'organise. Et parmi les volontaires, notamment des femmes. Reportage sur place à suivre. Déjà plus d'un million de réfugiés ont fui l'Ukraine selon l'ONU. Où et comment les accueillir? Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles.
Et on en parle dans 20 minutes à 7h50 avec l'invité d'Alexandra Ben Saïd, aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Dans ce journal également, le procès de l'assassinat du père Hamel. Le principal accusé proche d'un terroriste nie avoir été au courant de l'attaque. Nos quartiers ont de la gueule, une caravane qui donne la parole aux quartiers populaires. Et puis Nantes, de retour en finale de Coupe de France de football 22 ans après.
France Inter. Ivan Colonna est ce matin à l'hôpital de Marseille en état de mort cérébrale.
Au lendemain de l'agression du militant nationaliste corse condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 98, à la maison centrale d'Arles, un autre détenu s'est jeté sur lui, un homme radicalisé de 36 ans condamné pour terrorisme. Il l'a étranglé à main nue au cours d'une séance de sport, précise le procureur de Tarascon. Une double enquête de l'inspection générale de la justice et de la police judiciaire de Marseille est ouverte. Mathilde Vinceneux, vous êtes en direct de Corse. Vous vous trouvez précisément à Cargèse, village d'origine d'Ivan Colonna, où cette agression suscite émotion et colère, Mathilde.
Oui, dans ce village qui surplombe la mer au nord d'Ajaccio, on préfère rester discret. Mais la nouvelle a choqué, abasourdi, me disait la patronne d'un bar. C'est un enfant du village, on pense à sa famille, la famille du berger de Cargèse, qui demande à l'État de rendre des comptes. Comment un détenu aussi particulièrement signalé a-t-il pu être aussi sauvagement attaqué, interrogent les proches dans un communiqué transmis par leur avocat. Ivan Colonna était en effet très surveillé, isolé depuis son arrestation en 2003 après 4 ans de cavale. Et sa condamnation définitive en 2009, son statut en détention aurait dû le protéger à défaut de lui permettre de retourner sur son île. Hier soir, des dizaines de militants nationalistes se sont rassemblés devant les préfectures et sous-préfectures d'Ajaccio, de Bastia, de Corté. Pascal était à Corté, il est membre du parti pour la nation corse.
Depuis des années, les prisonniers politiques corses sont considérés au même titre que des prisonniers djihadistes. Les demandes de rapprochement sont systématiquement refusées. Donc aujourd'hui, ce soir, il faut le dire haut et fort, oui, l'État français est responsable de ce qui est arrivé à Ivan Colonna.
Ivan Colonna demandait depuis 10 ans un transfert dans une prison corse pour se rapprocher des siens, sans succès. Hier soir, un feu et des bougies ont été allumés devant les grilles de la préfecture d'Ajaccio. Le palais de justice de Bastia a été tagué. État français assassin, peut-on lire sur les murs.
Mathilde Vinceneux à Cargèse en Corse avec Julien Girard pour les moyens techniques.
Une semaine après le début de la guerre, les Russes s'emparent d'une grande ville ukrainienne.
Ils ont pris Kherson au sud du pays, 300 000 habitants, tandis que les bombardements se poursuivent au nord-est sur Kharkiv et au centre sur Kiev, dans la capitale où beaucoup d'habitants ont pris les armes, et des hommes surtout qui ont répondu à l'appel de mobilisation générale, mais aussi des femmes, des volontaires déterminés à participer à l'effort national. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kiev, Gilles Gallinaro et Omar Waman.
J'ai un Kalachnikov, grâce à Poutine.
Avant la guerre, Lyudmila Buimister siégeait au Parlement ukrainien comme députée indépendante.
C'est la seule personne dans le monde entier, je pense, qui pourrait me faire prendre des armes, parce que je suis une personne pacifique et j'ai 2 enfants.
4 ans et demi. Comment s'appelle-t-elle ?
Victoria.
Partout dans la capitale, des femmes prouvent que la guerre n'est pas exclusivement une affaire d'hommes. Eline, 37 ans, est professeure d'anglais.
Nous avons ce dicton qui dit que nos femmes sont comme les Vikings. Quoi qu'il arrive, elles restent aux côtés de leurs hommes. C'est la principale différence avec les Russes. Nos femmes défendent toujours leur pays comme le font les hommes.
Alors, vous avez un pistolet dans la poche ?
Oui, j'en ai un.
Catherine, 28 ans, elle a décidé de prendre les armes le jour où Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Vous êtes prête à mourir ?
J'espère que je ne mourrai pas parce que j'ai une vie à vivre. Mais je ferai tout pour protéger ma famille, mes amis et l'avenir de mes enfants. Un jour, je leur raconterai comme leur mère s'est battue pour eux.
Toutes ces femmes tiennent à montrer leur détermination à combattre dans cette guerre qu'elles n'ont jamais souhaitée. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Trois jours après l'échec des premières négociations pour un cessez-le-feu, ce matin, les discussions doivent reprendre près de la frontière avec la Pologne. En Pologne et dans les autres pays frontaliers, les réfugiés continuent d'affluer. Ils sont plus d'un million, selon le dernier comptage de l'ONU. L'Union européenne en attend beaucoup plus. Et pour les accueillir, la Commission européenne propose d'actionner une mesure exceptionnelle, mesure que les 27 ministres de l'Intérieur réunis aujourd'hui devront valider à Bruxelles. Angélique Bouin.
Avec un passeport biométrique, les Ukrainiens peuvent déjà entrer et rester 3 mois en Europe sans visa. Mais il faut se préparer à une grave et longue crise humanitaire, estime la Commission. Elle propose d'activer le mécanisme de protection temporaire qui permet de donner aux réfugiés un titre de séjour d'un an renouvelable 3 fois. Il offre un accès à l'emploi, aux écoles pour les enfants et à une protection sociale dans l'ensemble des 27 pays européens. Toutes les personnes fuyant l'Ukraine seront concernées, selon la proposition soumise au ministre, y compris les non-ukrainiens, à condition d'y avoir séjourné légalement et depuis longtemps. Dans le cas d'un jeune venu étudier, un Marocain par exemple, on organisera son rapatriement chez lui, précise un fonctionnaire. Ceux qui sont originaires de pays en guerre, éligibles à l'asile, pourront en revanche déposer une demande. La commission qui estime qu'une majorité de ces réfugiés va vouloir rejoindre ses proches, il y a une forte diaspora ukrainienne en Pologne, Allemagne, Italie ou encore Espagne, et pour éviter d'énormes queues aux frontières, les Européens devraient aussi décider d'alléger certaines procédures, tout en maintenant, promettons, un niveau de sécurité élevé. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, a martelé Emmanuel Macron hier soir. Il a pris la parole à 20h, dissociant bien le peuple russe et la décision de Vladimir Poutine de déclencher une guerre, dénonçant ses mensonges pour justifier l'attaque. Le chef de l'État a aussi prévenu, les jours qui viennent seront de plus en plus difficiles. Il faut s'attendre à des conséquences économiques en France. Les sanctions contre la Russie ont un prix. Emmanuel Macron qui a aussi réagi hier soir après la mort d'une figure emblématique de la télévision. Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers, a-t-il tweeté. Le journaliste est mort à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du poumon. Lui qui mettait à l'honneur tous les jours à 13h les régions françaises, position qu'il défendait contre vents et marées à TF1. Vous l'entendrez dans le journal de 8h.
Parole aux accusés au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Ils sont 3 membres de l'entourage des 2 terroristes tués par la police il y a 6 ans et demi. Après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, ils comparaissent devant la cour d'assises spéciale à Paris. Le premier à avoir été auditionné, c'est Farid Khalil, cousin d'un des terroristes et considéré comme son interlocuteur privilégié. Mais lui, Ariane Grissel, il nie catégoriquement avoir été au courant du projet d'attaque.
Vous avez dit tout et son contraire, on ne sait pas qui vous êtes. Assène l'avocate général à Farid Khalil, un accusé qui se dit fan de Coluche, des proches, fumeur de cannabis, client de maisons closes en Allemagne, à milieu de la propagande djihadiste qui marque pourtant ses échanges avec Abdelmalik Petitjean, ce cousin dont il se rapproche à l'été 2016. « Je me grise devant l'écran, je veux me faire bien voir, je répète ce que j'entends », assure Farid Khalil. « J'ai dit des choses horribles, je l'assume, mais je n'ai pas voulu qu'il tue ». Quelques heures après l'attaque, le trentenaire prévient la police d'un projet d'attentat. À ce moment-là, dit-il, il ne sait pas que son cousin est déjà passé à l'acte. L'accusation soupçonne une volonté de se couvrir. « Il a déjà parlé plusieurs fois d'attentat, de djihad. Pourquoi aurait-il frappé ce jour-là » rétorque Farid Khalil. « J'en peux plus qu'on essaye de me faire dire que je savais qu'il allait tuer le prêtre. « Vous n'avez rien fait pour empêcher qu'il tue ?» demande un avocat de partie civile. « Pas à temps », répond l'accusé. Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné, ne le lâche pas des yeux avant de quitter ostensiblement la salle en pleine audition.
Les 2 autres accusés sont entendus aujourd'hui et demain. Nos quartiers ont de la gueule. C'est le nom de cette tournée dans plus de 40 villes en France, pilotée par une caravane de l'association Passons-nous. Elle vient recueillir la parole des habitants de quartiers populaires à l'approche de la présidentielle. Le voyage s'est terminé hier à Clichy-sous-Bois, en région parisienne. Plusieurs heures d'échange avec les jeunes et moins jeunes pour parler des problématiques du quotidien et de citoyenneté. Inciter aussi à s'inscrire sur les listes électorales. Claire Chaudière. Y était.
On est parti depuis le mois d'octobre avec la caravane.
Là. 2 grandes tentes et des tables ont été installées juste en face d'un des arrêts du nouveau tram qui passe au pied des barres d'immeubles.
On a fait 45 villes de France.
Il y a du café, des gâteaux et un micro qui circule.
Ce qui manque ici, c'est la formation, c'est la culture, c'est les écoles. Parce que l'avenir, C'est des enfants.
Le but est de récupérer la doléance des habitants.
Ramissa a suivi le convoi depuis le début. Certains thèmes sont récurrents selon elle.
Pouvoir d'achat, logement. On a vraiment constaté la misère.
Avec un souvenir gravé, notamment les quartiers nord de Marseille.
On se croyait un petit peu dans un autre pays. On n'est plus à l'époque des Jean Valjean, quoi. Ça ne devrait pas exister de nos jours.
Je m'appelle Khaled.
Pour Khaled, 22 ans, une chose est sûre, la reprise économique n'est pas pour tout le monde.
Quand on me dit... Il y a du boulot partout. J'aimerais bien que la personne qui me dit ça, elle vient avec moi. Je ramène mon CV et là, on va voir la réponse.
Trouver un emploi de chargé d'accueil et vivre dans un appartement un peu plus grand, voilà les espoirs de Jamila.
Je suis dans un F3, on est 5 personnes. C'est déjà pas mal, j'ai un toit. Il y en a, ils l'ont pas. Parce que moi, je suis quelqu'un de réaliste. Surtout, les candidats, ne vendez pas de rêve aux gens. Permettez-vous de parler si vous êtes sûr de faire la chose. Les gens, ils en ont marre du rêve. S'ils ont compris ça, ça veut dire qu'ils ont tout compris.
Et cette mère de famille compte bien être sur la place de la République à Paris dans 10 jours pour les interpeller de vive voix dans un face-à-face à l'appel des associations de quartiers populaires.
Et à cette occasion, les témoignages récoltés pendant plusieurs mois seront restitués.
Le FC Nantes qualifié pour sa 9e finale de Coupe de France de football.
Oh, mais ça n'a pas été facile face à Monaco. 2-2 au bout du temps réglementaire hier soir. Les Nantais s'imposent finalement au bout du suspense au tir au but. Le stade de la Beaujoire explose de joie. Des milliers de supporters fêtent la victoire sur la pelouse. Un grand moment pour l'entraîneur des Canaris, Antoine Comboiré.
Le terrain envahi, je me suis dit quand j'étais dans le couloir, je dis mais ils sont malades ici les supporters parce qu'on n'a rien gagné quoi. C'est juste une demi-finale. Mais par contre ça voulait dire aussi beaucoup de choses. C'est donc l'attente, le manque. Voilà. Et puis surtout je pense, par rapport au match, la peur que les supporters ont eu, l'ascenseur émotionnel. Et donc ça s'est dessiné au bout de la nuit avec des tirs au but et les gens ont eu très très peur, donc ils ont souffert avec nous. Et la libération a permis à ce qu'on voit. Un envahissement, moi j'avais jamais vu ça. On espère voir la même chose par contre au Stade de France.
Au Stade de France, ce sera le 8 mai prochain face à Nice. La dernière victoire des Nantais en finale, ça remonte à la belle époque, en 2000 face à Calais.
Victoire controversée, hein, les Calaisiens s'en souviennent encore. Merci Paul Sertillange, l'édito politique est à suivre.